cette semaine, j'étais un peu préoccupé par certaines choses, donc on va regarder un petit peu cette question de sondage que j'ai vu tout à l'heure. J'étais préoccupé par Ésaïe, entre autres, donc on va regarder un passage, un très court passage dans Ésaïe. J'étais préoccupé aussi par la question de comment connaître les choses. Comment connaître, comment on arrive à connaître les choses et en pensant en particulier à ces sondages. Je vais débuter un peu avec cette pensée-là. Donc, Ésaïe, donc en fait, vous allez avoir une partie info, donc je vais vous bombarder de quelques infos sur Ésaïe. Et puis, on va se focaliser sur une des choses que Ésaïe a écrit et dit. Et puis, cette idée de connaître. Et quand on parle de connaître Dieu, quand vous avez chanté tout à l'heure, quand on a chanté tout à l'heure, Seigneur, entends mon cœur, tout ce processus de connaître et de vivre, enfin, pour moi, il y a souvent de la friture sur la ligne. Hein. C'est pas toujours évident. En fait, c'est souvent pas évident de connaître et de vivre. Bon. C'est un peu flou tout ça, ça va rester peut-être un peu flou tout ça. Mais je vais avancer. Et même avancer physiquement. Je vais être proche. Alors, j'étais frappé cette semaine par le fait que j'ai vu ces deux sondages. Donc, le premier dans les médias en France, qui disait que la moitié des Français, plus de la moitié maintenant, 51% des Français, ne croient pas en l'existence de Dieu. Donc ça, c'est une progression, bon, c'est pas une bonne progression, mais c'est une progression de 7 points en 10 ans. Bon, c'est qu'un sondage, un échantillon de personnes en France, mais ça montre peut-être une progression dans le fait que les gens ne croient pas, et s'ils ne croient pas, forcément, ils ne connaissent pas Dieu. C'est pas une bonne chose. Et puis, dans les médias chrétiens aux États-Unis, j'ai vu une autre stat qui m'a surpris aussi, c'est que il disait que 58, donc à peu près 60% des gens qui se disent chrétiens aux États-Unis ne croient pas que le Saint-Esprit est une personne réelle. Ce sont des gens qui se disent chrétiens, mais ne croient pas que le Saint-Esprit est une personne réelle. Donc ça, et merci Gérard pour le message, déjà le premier message que tu as apporté, tes prières que tu nous as apportées ce matin sur ce sujet. Mais ça, c'est aussi une question de connaître. Et ces deux choses, fait qu'il y a la moitié des Français qui ne croient pas en Dieu, les chrétiens aux États-Unis qui ne connaissent pas la personne du Saint-Esprit, c'est des choses qui sont apparentes en tant que chrétien, n'est-ce pas? On va pour moi. Ce n'est pas des bonnes tendances. Alors, Dieu existe-t-il? Pour les Français, on peut se poser cette question. Le Saint-Esprit, il est vraiment une personne réelle. On peut se poser cette question aux chrétiens aux États-Unis. Comment on peut affirmer ou bien contredire ces choses? Alors, c'est pour ça que je pose la question, mais comment est-ce qu'on peut connaître quelque chose? Si on décrit le fait de connaître quelque chose d'une manière matérialiste, c'est-à-dire que tout ce qui existe est juste la matière autour de nous, on connaît des choses à travers ce qu'on voit, ce qu'on entend, et plus tard, à travers des choses que nous lisons. D'accord ? Donc ça, c'est notre manière de connaître. Si nous restons dans cette optique-là, on peut comprendre peut-être que 51% des Français disent que Dieu n'existe pas. Il n'est pas visible. On y connaît d'une certaine manière. Mais nous, chrétiens, et là, je suis toujours dans la préface de l'introduction, mais nous, chrétiens, la Bible nous dit, et puis, comme cette question de comment connaître m'a préoccupé cette semaine, nous, chrétiens, la Bible nous dit qu'on peut connaître d'une manière supplémentaire, d'une manière surnaturelle. On peut connaître des choses d'une autre manière. La Bible enseigne, et Gérard, tu vas y arriver certainement dans tes messages, que l'Esprit Saint communique avec nous et nous permet de connaître ce Dieu invisible. En tant que chrétien, on a quelque chose, et là encore, pour moi, il y a la friture sur la ligne quant à cette capacité de connaître Dieu par son Esprit. Un exemple qui parle de ça, c'est qu'on parle, expose comment savoir d'où vient le salut. En 1 Corinthiens 2, chapitre 2, 9 et 10, il écrit comme le déclare l'Écriture, ce que personne n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi personne n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est un truc fou, ça. C'est à nous que Dieu l'a révélé, et comment ? Par l'Esprit Saint. Nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons. Donc, on peut connaître Dieu à travers son Esprit, cette manière surnaturelle que Dieu a donné à ceux qui croient en lui par la foi. C'est quelque chose qui en dehors des personnes qui ne sont pas croyantes. Alors, un autre exemple de cela, et puis ça va être la fin de la préface de l'intro. excuse-moi. c'est en Jean chapitre 16, quand il, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra le monde. Le Saint-Esprit va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, en ce qui concerne le péché, parce que les gens ne croient pas en moi. C'est Jésus qui a dit, enfin, les gens ne croient pas en moi. Mais l'Esprit, par l'Esprit, on peut connaître qui est Dieu. Jésus savait que les gens ne croyaient pas en lui, pour une partie, et puis aujourd'hui, s'il y a 51% des Français qui ne croient pas en Dieu, c'est qu'ils ont besoin de connaître. Ils ont besoin de connaître. Ils ont besoin d'être convaincus. Et ça, c'est la Bible nous parle que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Et bien sûr que nous avons un rôle à jouer là-dedans. Nous pouvons être une voix dans notre société, comme le personnage qu'on va regarder aujourd'hui était une voix dans sa société, et il s'agit de la personne d'Ésaïe. Donc voilà, donc maintenant je vais vous bombarder, comme j'ai dit, avec quelques infos. C'est quand la dernière fois que vous avez lu le livre d'Ésaïe ? Bah toi, c'était... Moi, on est ensemble. Ça fait un moment ? Deux ans, quelqu'un dit voilà. Okay. Donc on va regarder un petit peu la vie du personnage d'Isaïe, son message dans son livre, ce que nous pouvons connaître de Dieu à travers Isaïe, et puis en fait juste un aspect de Dieu sur lequel on va focaliser afin de attacher vos ceintures. Non, c'est pas bon. Ça. Mais où est-ce que je pointe le machin ?
Il est là.
Et ça marche.
Non, c'est ça.
C'est comme ça.
C'est mieux.
On va faire pour toi parce que j'ai l'impression que ça revient. On va faire pour toi, tu veux nous dire.
Allez. En fait, la première, c'est la fiche d'identité des alliés. Si vous y allez, bon, je vais vous dire, mais vous allez lire par la suite. Ésaïe est né en 780 avant Jésus-Christ, donc on parle presque trop loin. Ah oui, il est là, ok. Merci. C'est la première fois que je prêche dans cette église depuis ma vie. Donc il est né il y a presque 3000 ans, Isaïe. Il est fils d'une personne qui s'appelait Amos. Et la tradition juive fait de son père le frère du roi Amatia. Donc son père était probablement quelqu'un de rang. Et on a parfois supposé, mais c'est juste une hypothèse, qu'Isaïe était au moins issu d'une famille de nobles, une famille de noblesse. Son nom signifie Dieu sauve. Et donc, ici, il a été donné ce nom, en fait, par la suite, il va vivre ce nom et puis il va écrire sur ce sauve-là. C'est un nom approprié. Il fut marié avec une femme qu'on appelle dans le livre d'Ésaïe la prophétesse, tout simplement. Donc, sa femme, elle s'appelle la prophétesse. Bon, on ne va pas expliquer ça. Et puis, ils ont eu, Ésaïe et sa femme, ils ont eu deux enfants, deux fils au moins, qui sont mentionnés aussi dans le livre d'Ésaïe. Et ils ont vécu principalement à Jérusalem. Donc là, vous situez. Ésaïe, maintenant pour les fonctions, le job qu'il a fait Ésaïe, il était chroniqueur, donc il a écrit, il était secrétaire royal pendant son activité, il a été le précepteur du roi Ézéchias, il était peut-être médecin de la cour du roi. Est-ce qu'on est dedans? On n'est pas toujours pas dedans. Il était conseiller d'État. Donc, vous entendez, c'était vraiment quelqu'un de bien. Et bien sûr, il était prophète. Dieu l'a appelé à porter un message, il était porte-parole de Dieu. Donc c'était un homme d'un certain rang, plein de talent, un savant, chroniqueur, peut-être médecin, secrétaire du roi, précepteur, etc. Il devait être parmi l'élite à Jérusalem de son époque. On ne connaît pas beaucoup sur son caractère, mais il y a des versets qui disent qu'il était quelqu'un d'humble et de compatissant. Si vous le regardez dans Ésaïe 6, 5, 16, 9, 21, 3, 55, 2, on a des indications que c'était, même si c'était quelqu'un de conséquent, qui avait une certaine humilité, une certaine compassion. Et il a exercé son ministère pendant une longue période. Oui, je regarde toi dans le fond devant moi, je ne sais pas. Bon, je vais le faire. Donc, maintenant, vite fait, est-ce que ça marche? Je vous donne. Allez, deuxième, prochaine écran pour moi, vous pouvez. Il était donc. Non, c'est pas ça.
Non, mais en fait.
C'est pas grave. Je vais dire, parmi les prophètes de l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait des grands prophètes et des petits prophètes. Ésaïe était parmi les premiers les prophètes. Il a exercé un ministère pendant une cinquantaine d'années, dans une longue période, et il a beaucoup écrit. C'est-à-dire que, et puis on verra ça avec le message de l'Ésaïe, que le livre d'Ésaïe, c'est le troisième livre le plus long de la Bible. Ésaïe était un grand homme, instruit, mais aussi courageux, parce que Dieu lui a donné un job qui n'était pas facile. Il était porte-parole de Dieu. Et il a annoncé au peuple de Dieu, aux Juifs, que s'ils ne revenaient pas à Dieu, ils allaient subir la correction de Dieu. Et on lit dans le livre d'Ésaïe que le peuple avait une forme de piété, enfin une forme de religion externe, si vous voulez, mais que leur cœur n'était pas avec Dieu. Et quand je parlais tout à l'heure de cette friture sur la ligne, cette tension que nous vivons tous, on peut se demander comment ça se situe. Est-ce que nos cœurs sont avec Dieu vraiment, ou est-ce qu'on est de ce peuple qui se détourne et qui oublie ces points de progression de les gens qui connaissent de moins en moins Dieu, qui ne connaissent pas qui est le Saint-Esprit, et dans quelle catégorie est-ce qu'on se situe? Et donc Isaïe avait ce job de leur parler. Il voulait que le peuple comprennent la nature de Dieu. Ils voulaient qu'ils comprennent le vrai message de Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Et on voit, je ne sais pas où vous êtes, hein, dans le temps de on voit que il a annoncé même la destruction de Jérusalem. Et puis ça s'est produit même dans pendant sa vie, cette prophétie-là. Donc, c'était pas simple pour lui. C'était pas simple d'annoncer des avertissements à des gens qui ne voulaient pas écouter. Alors, voilà, ça restait là, bougez pas. On va regarder maintenant vite fait les quelques points majeurs du livre d'Ésaïe. Si vous ne le connaissez pas, il est divisé en deux parties. La première partie, c'est les paroles de jugement, parce que Dieu lui a donné ce message pas facile à communiquer, contre Israël, contre Juda et contre toutes les nations qui étaient autour. Ces chapitres-là sont des chapitres 1 à 39 et ils étaient écrits à peu près 700 ans avant Jésus-Christ, donc Isaïe est en pleine activité, plein ministère. Mais la deuxième partie d'Isaïe, c'est plutôt des paroles de réconfort. Et c'est là où Isaïe prophétise sur la fin de la captivité du peuple juif. Il parle du Rédempteur, ce Messie qui allait venir, et il parle aussi du royaume qui allait venir. Ça, c'est dans les chapitres 40 à 66, et on pense qu'il a écrit cette partie plutôt vers la fin de sa vie. Peut-être qu'il a fait du chemin avec Dieu et dans sa vie pour arriver. Aussi, Dieu lui a confié ce message de réconfort, ce message qui est super important aussi en parlant du Messie, du Rédempteur qui allait venir. Le but du livre, c'était de rappeler le peuple du Juda vers Dieu, parler du salut à travers le Messie. Les grands thèmes qu'on voit dans le livre, c'est la sainteté, correction, salut, récit et l'espoir, finalement. Comme j'ai dit tout à l'heure, Ésaïe, c'est le troisième livre le plus long de la Bible. Et on l'appelle aussi le cinquième évangile, justement, parce qu'il y a toute une partie du livre, c'est les chapitres 40 à 55 à peu près, qui parlent du Messie et de la rédemption, de l'espoir à venir. Et vous connaissez certainement Ésaïe 53 qui parle de ce serviteur souffrant, qui préfigure le Christ qui va venir. Alors, si vous permettez, je vais faire juste une petite sortie du message. Voilà, en fait, pour vous parler de ça, vous avez déjà vu tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui appuie la grandeur de Dieu. J'ai touché vite fait un mot sur ce sujet, mais il y a quand même une chose étonnante qui s'est produite avec le livre d'Ésaïe. Il y a quelques années. Est-ce que vous connaissez l'histoire des rouleaux de la mer morte? Vous avez déjà entendu parler de cette découverte. C'est en 47. Il y a un berger qui rôde autour des grottes en Israël, à Qumran. Et il fait une découverte exceptionnelle. Il cherche son identité, ou il est tombé dessus. En fait, je ne connais pas tout de suite toute l'histoire. Mais dans ce qu'il a trouvé, le rouleau, ce qu'on appelle le grand rouleau d'Ésaïe, qui contient tout le livre d'Ésaïe, les 66 chapitres. C'est un des manuscrits de la Bible le mieux préservé qui existe dans le monde. C'est énorme. Ça fait 734 centimètres de long, le rouleau. Et il date de 2 siècles avant Jésus-Christ. 2 siècles avant Jésus-Christ. Avant cette découverte, le livre, les manuscrits des élites qu'ils avaient dataient de 1000 ans plus tard. Ok ? Donc après Jésus-Christ, entre les rouleaux trouvés à Qumran et les manuscrits qu'ils avaient avant, c'était 1000 ans plus récent. Donc, Qumran, c'était 1000 ans plus tôt. Alors, ils ont fait une comparaison ils étudient ces rouleaux depuis longtemps, mais ils ont trouvé, avec 1000 ans d'écart, qui n'avait que 95% exact entre les deux manuscrits. 95%, 1000 ans d'écart. Et dans les différences, il y avait juste des changements d'orthographe de certains noms, quelques erreurs des scribes, et puis il y avait des variantes de texte qui étaient rajoutées. Donc en fait, on parle de quelque chose de vraiment, vraiment énorme. Et je veux juste mettre l'emphase sur cela. C'est une manière qu'on peut voir que Dieu a préservé sa parole. Pour nous, et c'est une manière pour nous d'attester de la fiabilité de l'Écriture. Donc, je veux juste faire cette petite aparté sur ce sujet. Si ça vous intéresse de regarder ces rouleaux, ils se trouvent dans le musée d'Israël à Jérusalem, et donc ils ont dédié toute une salle où on voit les rouleaux en rond comme ça. Mais vous pouvez même les regarder en ligne. Donc il y a un site, si ça vous intéresse, de regarder de près ces manuscrits, vous pouvez, c'est pour certains c'est intéressant. Alors, j'arrête, je ferme la parenthèse, et on revient sur Ésaïe et son livre. Alors tout à l'heure j'ai posé la question des comment est-ce qu'on peut connaître quelque chose et en tant que pour toute créature de Dieu, croyant ou pas croyant, on peut savoir, pas voir, entendre et plus tard lire. Pour nous chrétiens, on a son esprit pour nous aider à le connaître. Et la Bible nous dit que ce même esprit a guidé les hommes dans l'écriture, de la pensée de Dieu en écrivant ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Et c'est ainsi, à travers les siècles, que les croyants ont eu et ont pu lire la pensée de Dieu. Et on a compilé ça dans ce livre que vous avez sur vos téléphones, imprimé dans vos mains, que nous connaissons. Et chaque auteur de la Bible a apporté sa contribution pour nous aider à connaître Dieu. Ok ? En forme ce qu'on appelle la théologie, notre connaissance de Dieu, à travers ce que chacun de ces auteurs en écrit, en dit. On a peint des pages dans la Bible sur la sainteté. Tu vois, tu c'est pas thématique. Donc on tire la connaissance de Dieu à travers des multiples révélations que Dieu a données à ses auteurs. Donc là, je voulais juste regarder, et on peut rester sur cet écran-là, c'est très bien, certaines choses que nous apprenons d'Isaïe sur l'identité, les caractéristiques, les attributs de Dieu. Et on va pas rester très longtemps sur ces choses-là. Il y a des qualités intrinsèques de Dieu, c'est-à-dire c'est des qualités de Dieu lui-même qui lui sont propres, comme il est glorieux, saint, omniscient, omnipotent, éternel, il est trinité, il est unique, incomparable. Et puis il y a des qualités qui sont au bénéfice à ses créatures, comme sa grâce, miséricorde, compassion, colère, patience, fidélité, amour, salut et le don de sa parole. Je voulais juste vous montrer, en lisant, c'est parfois difficile d'aborder des livres de la Bible comme Isaïe, comme la prophétie, mais quand c'est important d'y plonger pour effectivement comprendre la nature de Dieu. Isaïe voulait que le peuple juif comprenne sa nature, comprenne son message. Et même si pour nous parfois c'est difficile d'aborder ce type de texte, il est capital, important pour nous, pour le connaître, de s'y plonger. Une note sur les choses qu'on peut apprendre de Dieu à travers le livre d'Ésaïe. Notez la deuxième colonne et qui parle de comment il est Dieu. Si vous regardez toutes ces choses qui sont au bénéfice de ces créatures, il n'y en a qu'une seule sur la liste qu'on peut caractériser de négatif, si vous voulez. La colère, le jugement. Mais toutes les autres. Et en regardant un livre de l'Ancien Testament, on ne pense pas toujours à cet aspect amour, grâce de Dieu. Mais Isaïe est plein de ces qualités qui montrent un Dieu qui est compatissant, qui est amour. Et si aujourd'hui 51% des Français ne connaissent pas ni l'existence de Dieu, c'est peut-être qu'ils n'ont pas eu ce portrait-là, qu'ils n'ont pas pu comprendre la nature de Dieu, qu'ils n'ont pas eu sa fiche d'identité, tu vois. Alors, on va passer maintenant j'arrive finalement à mon passage, donc je suis désolé pour cette très longue introduction, je ne suis pas désolé en fait. Mais je voulais vous donner cette introduction pour vous plonger dans la personne, le monde des Aïe, l'importance pour nous de regarder ces livres. Alors, on va mettre l'humain à jour, si ça va rester là, c'est très bien. On va se focaliser sur une des qualités intrinsèques de Dieu, c'est qu'il est unique. Il est incomparable. Ça se trouve en deux versets, donc qu'on peut regarder en 45, 5 à 6 et en 46, 9. Dieu est unique. Et je choisis de focaliser sur cet aspect-là parce que c'est un point de départ, en fait. S'il y a 50% des Français qui ne connaissent pas Dieu, ils ont besoin du basique, ils ont besoin du point de départ, ils ont besoin d'admettre que Dieu est là, qu'il existe. De toute évidence, nos contemporains, ils ont besoin de connaître cela. Et nous, en tant que chrétiens, on a besoin de connaître ça aussi, mais d'une manière plus profonde. Comme je dis, il y a la friture sur la ligne dans mon cœur, parfois. C'est que moi-même, je ne comprends pas la nature de Dieu. On ne va jamais saisir la nature de Dieu, ok? On est créature, il est créateur. Mais on a à notre disposition sa parole, on a en nous son esprit, mais la friture sur la ligne, et on a besoin de se plonger dans sa parole, dans la prière, dans cette communion, dans le louange pour le comprendre. Alors, tout d'abord, la Bible déclare que Dieu existe. Et si on le croit aujourd'hui, nous sommes dans cette minorité. Et Isaïe nous dit non seulement que Dieu existe, mais qu'il est le Dieu unique. Il est incomparable. Les versets disent « Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Non, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de moi, il n'y a que néant. » La semaine passée, dans la présidence, je parle du fait que Dieu soutient toute chose. Et sans Dieu, il n'y a rien. Il le dit. En dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel et il n'y en a aucun autre. Aucun. Ésaïe 46, 9 continue. Oui, moi seul, je suis Dieu. Et il n'existe rien qui me soit comparable. C'est difficile d'entrer dans ces pensées. Dieu est unique. Qu'est-ce qui fait que Dieu est unique? Qu'est-ce que ça implique que Dieu est unique? La Bible commence d'une certaine manière. Au commencement, Dieu. Ça veut dire qu'il y a eu un temps, si on peut appeler ça temps, où Dieu, dans l'unité de sa nature, une unité de trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, a vécu tout seul. Dieu a vécu tout seul. Il n'avait pas de terre à laquelle prêter son attention. Il n'avait pas d'ange pour lui chanter des louanges. Pas d'univers maintenu par la puissance de sa parole. Il n'avait rien, personne, sauf lui. Et ceci, pas seulement pour un jour, ou une année, ou même une ère, mais depuis l'éternité. Et dans cette éternité, Dieu était seul, il a vécu tout seul, autonome, autosuffisant, satisfait en lui-même, dans sa relation trinitaire. Il n'avait besoin de rien. Aucun besoin de gouverner l'univers, aucun besoin d'être glorifié par les créatures. Puis lorsqu'il a créé, cela n'a rajouté rien à sa personne. Dieu ne change pas. Il est unique, incomparable, dans son unicité. Dieu de manière nécessaire, Dieu est nécessaire, Dieu de manière nécessaire perdure, inchangé, pour l'éternité. Et lorsque Paul il parle aux Athéniens de ce que ceux ils appelaient le Dieu inconnu, voici ce qu'il dit. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et la terre, n'habite pas dans les temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Il est autosuffisant. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. Dieu n'a pas besoin d'un système de soutien. Il n'a pas besoin de ma prédication. Il n'a pas besoin de vos langes. Il a la vie en lui. Et son énergie sans fin vient de lui-même. Ésaïe 40:28 dit « Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. » Est-ce que vous imaginez à qui on a affaire? C'est la bonne réponse. Est-ce que vous imaginez à qui on a affaire? Et c'est très simple, enfin, on peut faire de cette raccourci pour dire bon, on est dépassé et on ne comprend pas. Mais Dieu veut qu'on le connaisse. Dieu veut qu'on élimine la friture sur la ligne. Il nous permet d'y aller. Il nous donne son esprit pour y aller. On ne sait pas à qui on a affaire. Si on se rendait compte, on serait par terre, certainement. Et on ne réfléchit pas toujours à ces choses. Mais d'y réfléchir et d'approfondir ces pensées nous sont nécessaires. Comme Dieu est nécessaire. Je suis l'Éternel. Il n'y en a pas d'autre. Non. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de moi, il n'y a que néant. Il n'existe rien qui ne soit comparable. Dans notre vie de foi, nous nous appauvrissons si on se nourrit d'une perception de Dieu qui est trop limitée, trop petite. Et je pense qu'il est vital pour notre santé spirituelle de croire dans le Dieu unique, incomparable, sans égal. Et c'est ma prière que par l'Esprit Saint, que Dieu me permet de le connaître comme ça, autant que possible. J'étais préoccupé par cette idée de connaître cette semaine. Comment on arrive à cette chose? Et on voit que l'Écriture nous dit que par son esprit, on peut le connaître. Il y a un privilège que les gens qui ne le connaissent pas n'ont pas. Et parfois, on traite ça de manière légère. Parce qu'il y a la friture sur la ligne, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de gens, il y a toutes ces choses. Mais si on se rend compte de qui est cette personne à qui on a affaire, et de son attitude vers nous, cela doit nous donner envie d'y aller, d'y penser, d'y plonger, de prier. Il est capital que par la foi nous saisissons autant que possible, et ceci avec l'aide de l'Esprit, la nature du Dieu unique, incomparable, pour que nous puissions agir de manière qui soit à la hauteur de cette connaissance. On n'est pas toujours à la hauteur, ça c'est clair. Le peuple d'Israël Ils ont reçu des enseignements, des avertissements de la part de d'hommes comme Esaïe, mais ça leur n'a pas suffi. Ils ont pris la mauvaise route quand même, nous faisons souvent pareil. Nous aujourd'hui, nous connaissons la suite de l'histoire. Enfin, le peuple juif à l'époque n'avait pas l'envoi du Saint-Esprit, n'avait pas la fin de l'histoire de la rédemption en Christ. Nous connaissons la suite, nous connaissons le Messie, nous connaissons la grâce. Nous sommes tout autant sans excuse, et nous avons même peut-être plus de raisons de garder nos cœurs attachés à Dieu dans une attitude de reconnaissance et avec le désir de lui plaire, n'est-ce pas? Alors, Dieu est unique, il est incomparable. Quelles sont quelques implications brièvement et assez évidentes, mais je vais leur dire quand même. Puisque nous connaissons ce Dieu unique, incomparable, nous devons reconnaître qu'il nous est nécessaire et nous sommes dépendants sur lui. Jordan l'a dit dans la présidence, cette idée de l'autosuffisance. On arrive parfois à cette illusion qu'on contrôle certaines choses. Bon, le Covid peut-être nous a enseigné un peu sur cette autosuffisance et autres, mais c'est un point de départ. On est dépendant sur lui. On doit reconnaître cette chose. Puisque nous le connaissons, nous devons le louer. Et merci pour les prières, merci pour la louange. Et même quand on est ici à l'église, j'imagine que vous l'expérimentez vous aussi, mais il y a la friture sur la ligne. Je veux dire, pour moi, d'entrer dans la louange, dans les pensées qui s'élève vers ce Dieu qui s'est révélé à nous à travers la création, sa parole, son Fils. J'ai toujours du mal. Merci pour la louange et pour nos prières, pour cette communauté qui nous permet d'élever nos pensées à ce Dieu unique et incomparable. Et troisième chose qui est de toute évidence aussi, c'est que si Dieu est ce Dieu qui est caractérisé par toutes ces qualités qui sont plutôt aimantes, si c'est ça sa nature, si après la suite de Jean 3, que Dieu n'est pas venu pour juger, mais pour sauver, quelle est notre réaction quand on connaît ce Dieu-là? Nous devons le faire connaître. 51% des Français nient l'existence de Dieu. Nous devons le faire connaître. Ça devrait faire partie de notre cœur pour que tout homme sache. Et ok, c'est peut-être un job difficile. Esaïe avait ce même job difficile d'avertir le peuple d'Israël. Bon, on a un job qui est peut-être difficile. Mais nous connaissons l'incomparable. On connaît cette personne. Il n'y en a pas d'autre comme nous. Et puisque nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre, l'un de nos devoirs et nos privilèges est de faire connaître le Dieu vivant et vrai à ceux qui ne le connaissent pas. Nous le faisons à travers une vie de sainteté, une vie qui reflète ce qu'il nous enseigne, ce qu'il a dit. Nous le faisons à travers un témoignage, pas un faux témoignage, pas un témoignage de triomphe, comme on connaît tout, on sait tout, on a tout maîtrisé, mais des témoignages vrais de notre vie transparent avec Dieu. Et nous le faisons connaître à travers nos témoignages, nos louanges, nos prédications. C'est à nous de faire ces choses. Et donc je vous laisse avec les paroles de Jésus qui a dit à ses amis « Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il est le Dieu unique et incorporable. »